Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Ravi de vous retrouver en compagnie aujourd'hui de Patrick Cohen, président de Radio Judaïka. Bonjour.
Bonjour mon cher Dan Leclerc.
Patrick, nous sommes très heureux de t'avoir ici dans les studios. Nous recevons un invité exceptionnel, comme nous avons l'habitude, mais là encore plus que de raison. Il s'agit de Michael Journeau, le rabbin Michael Journeau. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes, pour rappel, aumônier général des hôpitaux de France, rabbin de la communauté de Chasse-Loulouba. Vous êtes né en 1974, un jeune homme, que dis-je, un très jeune homme, même, ça fait plaisir d'avoir voilà, des rabbins contemporains avec nous. Et vous êtes ici, entre autres aujourd'hui, pour votre livre « L'apport du judaïsme à l'humanité, une réflexion au jour le jour d'un rabbin ». C'est votre nouveau livre et nous sommes très heureux de vous recevoir pour pouvoir partager sur ces réflexions qui s'annoncent de toute évidence enrichies et nombreuses. Bienvenue à vous.
Merci à vous et je vous remercie de m'accueillir.
Nous sommes très heureux. Patrick Cohen.
Alors, comme vous avez la gentillesse de nous envoyer votre ouvrage, on a eu la politesse de le parcourir. Moi, j'ai eu l'impression, mais vous l'avez dit, hein, je crois, dans la préface, en fait, ce sont des réflexions que vous avez eues au fil du temps ces dernières années. On retrouve d'ailleurs, hein, au travers des différents thèmes abordés, des événements marquants nationaux, en fait. Hein. On retrouve les attentats, on retrouve l'interrogation. Tu parlais tout à l'heure, Dan, d'un rabbin contemporain. Les sujets le sont tout autant. Vous parlez de l'intervention des réseaux sociaux et de l'impact. Moi, j'ai eu un petit peu l'impression, en le lisant, que c'était le judaïsme pour les nuls, mais où est-ce qu'on en est du judaïsme aujourd'hui? Et pour moi, c'était très clair, c'était adressé à deux populations, bien évidemment la communauté juive dans son ensemble, mais aussi aux non-juifs. J'ai trouvé que votre façon d'aborder les sujets, c'est relativement accessible et pédagogique. C'était l'objet et l'objectif de ce livre ?
Tout à fait. L'objectif de ce livre, c'est que je souhaitais m'adresser à la fois à la communauté juive, aux membres de la communauté juive, leur rappeler qu'ils sont les héritiers directs d'un patrimoine culturel, spirituel incroyable. Et je voulais, par mon travail, leur faire découvrir les trésors de notre judaïsme. Je voulais aussi m'adresser aux non-juifs, en leur rappelant que nos sociétés occidentales sont le creuset de l'héritage judéo-chrétien. Mais avant d'être chrétien, il est d'abord juif, hébraïque et biblique. Et vous savez, mon maître à penser, c'est Rashi, le maître français, le rabbin de Troyes, qui avait cette grandeur d'esprit. C'est un érudit hors norme, hors du commun, extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, vous entrez dans n'importe quel lieu de prière ou lieu d'étude, vous trouvez toujours la Bible, le Chumash, le Pentateuque ou la Torah ou même le Talmud, toujours accompagné de Rashi. Et quelle était sa grandeur ? C'est de démocratiser la complexité de la Torah et pour pouvoir l'offrir et la présenter à l'ensemble du peuple juif. Et j'ai essayé humblement, modestement, de répondre et de rappeler aux juifs et à nos frères en humanité non juifs, combien le judaïsme était une pensée, une civilisation, une culture, une philosophie d'une très grande profondeur.
Comme le disait Patrick Cohen, c'est important qu'il y ait ce double emploi, c'est-à-dire pour la communauté, mais également pour une ouverture extérieure sur les non-juifs. Vos présentations et votre participation aux émissions télévisées, votre rôle au niveau du consistoire central concernant la bioéthique contemporaine et ouvert sur les autres en témoignent. C'est important pour vous de continuer à, j'allais dire évangéliser, ça ne serait pas le bon mot, mais en tout cas à partager et notre pensée et ce regard sur le judaïsme et sur les autres religion.
Elie Wiesel avait une formule qui, à mon humble avis, résumait mon projet de vie. À savoir, la vocation du judaïsme n'est pas de judaïser le monde, mais de l'humaniser. Et donc, il m'a paru fondamental, essentiel, de rappeler les valeurs éternelles du judaïsme, comme la sanctification de la vie. Et effectivement, j'en ai peut-être un peu assez que lorsqu'on parle de la communauté juive, on dit un juif. Que ce soit une victime du terrorisme ou du nazisme, ou parler d'un citoyen français de confession juive. J'ai toujours...
En même temps, je me permets de vous interrompre, mais j'ai lu dans une de vos interviews en même temps que le terme israélite avait disparu au profit de celui de juif, que c'était assumé et que c'était lié au gage que la France avait vis-à-vis de la communauté juive. En fait, les choses se sont inversées. Les juifs étaient intégrés, faisaient allégeance à la France avant. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, dans votre rédaction, que c'est un petit peu l'inverse. C'est que la France a péché sous Vichy et qu'aujourd'hui, c'est à elle de montrer des gages en fait, de confiance, d'appartenance à la communauté juive. Pardonnez-moi.
Vous savez que dans un couple, dans une relation amoureuse ou amicale, il y a des droits et des devoirs de part et d'autre. Je pense que la communauté juive a montré son attachement à la laïcité, a toujours fait preuve de civisme, elle a versé son sang pour la France, et la France lui rend bien aujourd'hui. Mais on doit en aucun cas omettre son passé, l'histoire douloureuse. Quand bien même il y a eu des actes de repentance et la demande de pardon à la communauté juive de par la France, cet épisode de notre histoire est là. Et personne ne pourra accorder ce pardon, si ce n'est les victimes, celles et ceux qui ont disparu. Mais mon discours est un discours plein d'espoir, et pour la paix civile, la paix républicaine, et nous avons la chance et le bonheur, je suis un des plus grands défenseurs de la laïcité à la française, je la défends là où je peux, et ça nous montre combien la France est belle et généreuse. Vous connaissez ma fonction, ma vocation d'être aumônier hospitalier, aumônier des hôpitaux, c'est un lieu où je le disais il y a quelques instants à une journaliste, une de vos collègues, j'expliquais que c'est le seul lieu, à mon humble avis, dans la société, où des hommes de toutes les religions travaillent vraiment main dans la main. Avec un objectif, c'est l'intérêt du patient et l'intérêt de leur famille. Et récemment, j'ai eu cette chance et ce bonheur de participer à une opération lors de la fête de Pourim avec le grand rabbin Harold Eyde, avec votre cher président, M. Dahan, et votre conseil d'administration.
Ici à Strasbourg, vous étiez il y a trois mois.
Ici à Strasbourg, où votre communauté est une communauté modèle, une communauté exemplaire, où la paix, à la fois intracommunautaire et intercommunautaire et interreligieuse, règne et rayonne.
Merci déjà pour ce
cet hommage.
Nous le prenons.
Cet hommage.
Je voudrais revenir justement sur votre rôle en tant qu'aumônier des hôpitaux. Vous avez été confronté, vous êtes encore confronté quotidiennement à cette relation avec cette épidémie, ce que nous vivons. Comment s'est porté justement le peuple juif, nos coreligionnaires, et quel a été votre rôle? Est-ce qu'il a été justement marqué par des transversalités avec les autres religions, et comment est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, vous êtes intervenu?
Alors très bien. Tout d'abord, nous sommes l'interface avec le ministère de la Santé. Nous travaillons main dans la main avec les différents aumôniers nationaux. Nous avons des réunions, et même lorsque il n'était plus été possible de se réunir physiquement, nous continuons nos réunions et nos rencontres via distanciel, via le Zoom. Et donc ce travail est fait en parfaite symbiose et en communauté, si je peux m'exprimer ainsi. Au regard de la communauté juive, j'étais un des premiers lanceur d'alerte, puisque je travaille avec des experts médicaux, des scientifiques de France, et je salue le travail exceptionnel opéré par l'Association des médecins israélites de France, dirigée par le docteur Bruno Aliwa, mais aussi de Jonathan Taïeb, du professeur Molina. J'étais un lanceur d'alerte vis-à-vis de la communauté, et dès début mars, avant que la catastrophe n'arrive, j'ai alerté l'ensemble des présidents et des rabbins de communauté. Je ne suis pas médecin. C'est ça aussi, ouais. Preuve d'humilité. Je ne suis pas un sachant médical ni un sachant scientifique, mais je sais poser les bonnes questions. J'ai interviewé le professeur Molina, qui est l'un des plus grands infectiologues de France, voire du monde, et je lui ai posé des questions claires quant à la possibilité d'organiser nos célébrations de Pourim comme à l'accoutumée. Et les réponses ont été très claires. Je les ai, bien évidemment, comme on dit dans le jargon d'Internet, balancées dans les différents réseaux sociaux pour avertir, alerter la communauté. Et tout mon rôle a été en grande partie consacré jour et nuit avec mes équipes, parce que je travaille avec des équipes, des hommes et des femmes, des rabbins et des laïcs, des rabbins et des présidents de régions, des petits rabbins de communautés, des petits rabbins, des grands rabbins, mais de petites communautés. Quand je dis petits, c'est-à-dire, c'est pas au niveau du nombre, c'est au niveau du don du cœur. Donc l'information, faire en sorte que pendant cette terrible épidémie, informer la communauté sur les dangers, des spots publicitaires, c'était littéralement, j'avais bien compris que tout se jouait sur les téléphones portables. Vous pouvez tout retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. et faire en sorte que notre communauté, les patients de la communauté juive ne se trouvent pas complètement déboussolés, abandonnés. Et le rôle d'un rabbin, c'est d'unir et de réunir, mais surtout ne pas simplement s'adresser aux puissants et aux forts, mais savoir s'adresser aussi à celles et ceux qui sont dans la difficulté, dans la maladie, dans la souffrance et dans la peine.
Alors, moi, j'ai relevé une phrase que vous avez dite. C'était « le masque avant la kippa ». Alors, c'est une phrase qui interroge parce que vous êtes, et finalement, vous l'avez dit, vous n'êtes pas médecin, mais en tous les cas, vous avez acquis un certain nombre de compétences. Hein, vous évoluez dans ce milieu-là et vous êtes une référence communautaire pour ça. Et en même temps, vous êtes rabbin. Et pour des gens un petit peu moins aguerris aux choses, aux grandes choses spirituelles, je me suis posé la question, je me suis dit, mais un rabbin qui dit la kippa avant... le masque avant la kippa, est-ce que c'est pas mettre un petit peu en doute la confiance qu'on peut avoir dans le Créateur ?
Vous savez, Maïmonide est aussi un de mes maîtres à penser. C'est celui qui a hiérarchisé les mitzvot, que je traduis par des valeurs. La valeur la plus fondamentale, cardinale du judaïsme, c'est la sanctification de la vie, le pikuach nefesh, la préservation de la vie humaine. Et je voulais marquer les esprits. Et dire aux gens et aux fidèles, à nos frères et sœurs, en leur expliquant que la kippa, c'est important de rentrer dans une synagogue en kippa. C'est important, mais c'est plus important, c'est plus grave de rentrer avec une kippa sans masque que l'inverse. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est-à-dire c'est la Torah. C'est Dieu qui nous demande. Il nous offre la vie, il nous offre la santé, et il nous demande, « Venishmartem me'ol nafshotechem », je vous demande de faire extrêmement attention à votre vie, à votre capital santé, parce que je risque de vous demander des comptes. Comme aujourd'hui, nous menons une campagne pour la vaccination. J'ai réuni deux plus grandes sommités, le grand rabbin Michel Guggenheim, qui est un érudit, un expert en éthique médicale, et le professeur Moulina, il y a quelques mois, déjà avant que... même dans les médias, dans les chaînes d'information, on continue, on ne parlait pas encore du vaccin. J'ai voulu tout de suite alerter la communauté juive sur l'obligation de se faire vacciner, bien évidemment selon les classes d'âge et les autorisations. Et pour moi, c'est important parce qu'il faut rappeler aux membres de la communauté que Dieu nous envoie dans cette tempête terrible, il nous envoie des bouées. Les bouées s'appellent des vaccins, c'est les vaccins. Donc il faut faire confiance. Les juifs, le peuple juif, et je l'explique dans mon livre, a toujours fait confiance aux scientifiques, à la science et à la médecine.
Et aux règles.
Et aux règles.
J'ai bien noté dans votre livre les règles sur la toilette qui ont permis au travers des siècles au peuple juif d'éviter un certain nombre de maladies et autres qui leur a été à des moments préjudiciables puisqu'on leur reprochait finalement de ne pas être touchés. Bref, ça c'est une autre histoire. Dans le rapport, j'ai lu aussi, on a essayé de vous connaître hein, au travers des parutions que vous avez faites, et c'est assez riche. Vous avez fait un courrier, une lettre de réponse, ou une lettre ouverte au grand rabbin Corsia sur le rapport des Juifs à Israël. Et même d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, on a évoqué le thème tout à l'heure, des Juifs à la nation française. Pourquoi ça a été important de repréciser ça et qu'est-ce qui a motivé finalement cette... droit de réponse, ou en tous les cas, cette précision de votre part, semble-t-il que vous vouliez exprimer une position particulière dans le domaine.
Je vous remercie de votre question. Mon objectif, ça a toujours été d'être unitaire, de rassembler les uns et les autres.
Il n'y a pas de polémique dans votre réponse.
Il n'y a pas de polémique.
Aucune attaque, aucune polémique. Par contre, c'était important pour
vous. Je vous remercie de le signaler.
Oui, mais d'ailleurs, c'est très bien écrit. On n'en décèle aucun.
Les interprétations pourraient être vite.
Oui. Non, mais on sent que par contre, vous aviez un point de vue. Non pas opposé, mais différent, et qu'il est important pour vous de l'exprimer. Voilà.
Je trouve qu'il est important, surtout lorsqu'on est rabbin. Un rabbin, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur, c'est celui qui rassemble tous les juifs, quel que soit leur niveau de pratique religieuse, quelle que soit leur façon de penser, on ne condamne pas les juifs. Dans le sens où s'il y a des juifs, il existe des juifs, mais je vous le précise, il existe des juifs dans les territoires perdus de la République qui ne se sentent pas en sécurité en France. C'est une réalité. On n'est pas en train de faire de la politique en le disant. Les plus grands experts, les sociologues, les politologues, les hommes politiques, les philosophes, tout le monde, les écrivains, tout le monde le dit, les journalistes. Lorsqu'il s'agit d'un rabbin, il faut dire non, la France, vive la France.
Même le Rassemblement National le dit.
Tout le monde, tous les partis.
C'est pour dire.
Donc un juif qui quitte la France pour des raisons, parce qu'il ne se sent pas en sécurité, mon rôle n'est pas de le juger, n'est pas de le critiquer, mais de l'accompagner d'un point de vue spirituel au mieux que je peux.
C'est en fait, en vous écoutant, il y a une sorte de redéfinition du rôle de rabbin.
Alors, il y a cette tradition du rôle de rabbin, je l'entends à plusieurs niveaux. D'abord, et Patrick, je pense que tu accéderas à cette constatation, on est souvent en région, un petit peu éloigné du centre de décision nationaux, du national, de Paris, du consistoire central, et votre présence déjà atteste d'une proximité, ou en tout cas d'une volonté de se rapprocher de nous, que ce soit de nous, je parle des régions. Et je crois que c'est important ces régions parce que finalement le poumon, que ce soit les poumons du judaïsme français, l'Alsace en est un particulièrement parce que 70% du judaïsme national se retrouve, en tout cas dans le patrimoine juif français, se trouve en Alsace. Donc on a eu du plaisir à vous avoir. Mais je sens aussi cette envie, en tout cas, de s'étendre et de prendre de l'ampleur, en tout cas de proximité et de présence. Est-ce qu'il y a une volonté spécifique par rapport à ça, une envie justement de donner un air de modernisme et une sorte de nouveau souffle.
Je vous remercie de votre question. Effectivement, je n'ai pas attendu la pandémie ou l'après-pandémie pour voyager. Des centaines et des centaines de communautés, dans le sens de mes déplacements, je suis allé plusieurs fois dans les différentes communautés, et je profite bien évidemment, lorsque je me déplace, pour créer les infrastructures, les structures au sein des hôpitaux. Je visite la communauté, et je suis amoureux de mon peuple. On ne va pas me l'enlever, je suis amoureux de mes frères et sœurs. Et donc, lorsque je visite la communauté de Vichy, et je vois cette belle communauté résister pour transmettre aux jeunes générations, pour se battre pour avoir un minyan le vendredi soir, le Shabbat matin, le jour de fête. Moi, pour moi, c'est d'abord c'est une merveille. Ça m'émerveille de façon incroyable. Et j'essaye d'apporter, à moindre mesure, simplement, modestement, ma contribution, leur apporter. Je pense qu'il ne faut pas se couper de la base. Il faut aussi s'adresser à celles et ceux qui sont plus ou moins éloignés de la dynamique communautaire et juive.
Vous le disiez justement, il y a une sorte, c'est pas une diaspora, mais en tout cas des juifs plus ou moins éloignés dans des territoires un petit peu plus lointains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ramener? Est-ce qu'il faut les ramener? Est-ce qu'il faut simplement les connecter, leur parler? Le moyen les réseaux sociaux, le modernisme, tout ça sont une manière de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous en parlez aussi dans votre livre et dans votre relation à l'autre.
Tout à fait. Le livre que je viens d'écrire, je l'écris pendant cette période. J'ai rassemblé différentes thèses que j'ai améliorées, que j'ai approfondies. J'ai voulu faire des textes extrêmement concis, précis, des précis de pensée juive qui permettent à tout à chacun de pouvoir approfondir, s'il le souhaite, tel et tel sujet.
Oui, c'est par thème, hein. Il faut bien thème. Dire. C'est tout à fait. On peut traiter les thèmes qui nous intéressent.
Exactement. Ouais. Et je l'ai fait parvenir à l'ensemble des présidents de l'Assemblée Générale du Consistoire de France, avec aussi cet objectif, dans le sens où leur donner une bouffée d'oxygène, leur donner la possibilité de s'émerveiller du judaïsme, de son étude, de sa profondeur. Il y a des sujets, bien évidemment, dont on connaissait déjà la tenue, la portée, mais je pense que c'était important de les réunir dans un même ouvrage. Je rappelle simplement, et là je vous envoie le scoop, hein, l'info en avant-première, c'est que c'est le premier d'une longue série.
C'est le scoop, une avant-première. Il faut continuer. On a regardé le calendrier avec Patrick Cohen, et puis en regardant le timing un petit peu, parce que c'est le mot que l'on peut parler, dont on peut parler en ce moment. On s'est rendu compte que c'était il y a 7 ans l'élection.
Déjà 7 ans.
Déjà 7 ans. Ouais. Déjà 7 ans. Ce septennat est bientôt de l'élection du grand rabbin de France. Et les prochaines élections vont avoir lieu au mois de juin, si je ne m'abuse. Donc nous avons eu un petit peu une petite antenne qui s'est dressée, et on s'est posé la question de savoir justement si il n'y avait pas derrière ce livre une annonce ou tout au moins une forme de programme à ce sujet.
Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis candidat à l'élection poste du grand rabbin de France. C'est le fruit d'une longue réflexion, de nombreuses rencontres et d'échanges sur le terrain, et que j'ai décidé dès vendredi dernier d'envoyer ma candidature au président du consistoire de France, mais aussi à l'ensemble des membres de l'Assemblée Générale. Ma volonté consiste à servir nos frères et sœurs. La représentation.
On sent dans votre voix, pardonnez-moi, je vous interromps, beaucoup d'émotions. Oui, hein, on va presque, d'ailleurs.
Nous la ressentons parce que c'est ce qu'on
incroyable ce qui se passe dans le studio. D'abord, ça nous fait très plaisir que vous l'annonciez sur l'antenne de Radio Judaïque à Strasbourg. Une communauté que vous aimez et je crois qui vous le rend.
Qui vous le rendra bien.
On vous a vu bien accompagné venir au studio. Voilà. Et en tous les cas, nous, on est là sur place et on peut, en tous les cas, noter votre émotion. On va vous laisser, poursuivre, puis on va peut-être pour du coup vous interroger, on va sortir un peu du livre. C'est quoi le moteur de tout ça? Vous avez déjà beaucoup de fonctions au niveau communautaire. Vous avez envie vraiment d'aller au-delà maintenant et de passer à quelque chose de beaucoup plus dans le sens de la fédération, parler du rôle fédérateur. C'est ça qui vous anime aujourd'hui?
Tout à fait. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme d'action. Dans le sens où, lorsqu'il faut agir, je suis là. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. On propose un dossier, je ne le lâche jamais.
C'est dans votre livre, ça aussi.
Oui, tout à fait.
Absolument.
Tant que je ne réussis pas, je ne lâche rien. Parce que nous sommes là pour servir nos frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on puisse leur tendre la main, leur donner des réponses concrètes. Notre communauté, à cause de cette terrible épidémie, on n'est pas encore sorti, mais on voit la fin du tunnel grâce à cette vaccination. J'aimerais rendre hommage à nos scientifiques et aux scientifiques de par le monde qui ont fait un travail exceptionnel.
En peu de temps, oui.
En très peu de temps. Ça montre que lorsqu'on est connecté, les différents laboratoires, lorsque les différents médecins, ça nous montre aussi, c'est un message spirituel.
C'est ça,
spirituel.
La fédération aussi. Ouais.
Tout à fait.
Le cœur et l'esprit.
Tout à fait. C'est les experts et des moins experts, lorsqu'on est unis, lorsqu'on est connectés les uns avec les autres, qu'on peut faire preuve d'une force et d'une puissance incroyable. Et j'en ai assez que les uns et les autres, on travaille séparément. Le rôle d'AgroMan France, ce n'est pas de visiter différentes communautés et de dire « j'ai traversé, j'ai fait ». Non, il faut travailler sur le terrain. Je ne peux plus accepter le fait qu'il existe des communautés qui sont dépourvues de rabbins. Je ne peux plus accepter que dans certaines communautés, il n'y a pas de Talmud Torah. Je rappelle que ce que la pensée juive nous enseigne, la première chose à construire, ce n'est pas une synagogue. C'est d'abord un lieu d'instruction, un lieu de transmission de nos valeurs à nos enfants, à nos élèves et aux jeunes générations. Donc, aujourd'hui, le travail de représentation au niveau des médias, au niveau des instances publiques, a été très bien mené. Ce dernier septennat, comme mes illustres prédécesseurs, je mènerai à bien et avec la même vigueur, eh bien, ce devoir de représentation, je le ferai du mieux que je peux. Mais aussi, je pense que la communauté a besoin d'amour. Elle a besoin d'espérance. Elle a besoin de voir qu'on s'occupe littéralement de façon factuelle, concrète, de résoudre les problèmes de leur vie, dans leur vie de tous les jours, de s'occuper, de mettre sur la table des sujets du judaïsme de transmission. Je voulais parler de la transmission. Le deuxième axe, c'est la proximité, le fait d'être proche de la communauté. Et aujourd'hui, plus encore qu'hier, il faut un interlocuteur qui soit là, qui fédère, qui réunit. On ne réussit pas seul. On doit être accompagné d'hommes, de femmes, de la société civile. Moi, je vois que même par rapport à...
Ce que vous faites aujourd'hui, notamment au travers de vos fonctions.
Exactement.
De fait, vous travaillez avec les gens de l'intérieur. Vous l'avez dit, de toute façon, vous avez des équipes, des gens de l'intérieur et des gens de l'extérieur.
C'est une sorte de laboratoire que vous avez eu l'occasion d'expérimenter avec un projet et une méthodo, en fait.
Et une méthodologie. Et vous savez, encore, reparlons de Rashi. C'est son humilité. À 77 reprises, Rashi, le plus grand des commentateurs de la Bible et du Talmud. Sans lui, le Talmud et la Bible auraient été considérés comme des livres hermétiques et fermés. À 77 reprises, Rashi dit « et ni Yodéa, je ne sais pas ». Je pense que faire preuve d'humilité, de dire « je ne sais pas tout, je ne peux pas tout résoudre, je ne suis pas, le grand Man de France n'est pas seulement un homme politique, c'est pas un homme de la représentation seulement, c'est un homme qui sait aller mettre les mains dans le cambouis, c'est celui d'accepter le fait qu'il existe des détenus, qu'il ne faut pas aller les voir simplement pour faire la photo, il faut aller sur le terrain, s'occuper de nos jeunes. » Un exemple, moi, quelque chose qui m'empêche de dormir le soir, c'est une réalité. Je ne simplement, dans ma vie de rabbin, lorsque j'étais à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, je rends un hommage à ma belle communauté, ma première communauté, je l'appelle ma communauté de cœur. D'ailleurs, c'est le thème de la campagne, c'est le judaïsme du cœur. Hein. Et c'est vraiment cela qui me porte. Je voyais, donc, notre synagogue était fermée 6 jours sur 7, à l'exception de Shabbat et les jours de fête, bien évidemment, et les offices du matin et les offices du soir. Je voyais toute notre jeunesse, il n'y avait aucun point de repère, une cafétéria cachère, etc. J'ai pas réfléchi une ou deux. Ni deux, on a construit une maison pour les étudiants en 8 mois, sans un centime en poche, grâce à l'aide du maire de Sceaux, grâce au conseil régional. On a construit une véritable maison pour accueillir nos étudiants, pour leur permettre de manger cacher avant l'heure. On a mis des ordinateurs avec Internet. Donc, il faut bâtir, il faut construire. Aujourd'hui, vous entendez toutes les aides exceptionnelle que le gouvernement octroie à différentes catégories de population pour les aider. Et d'ailleurs, je rends hommage au gouvernement et à la France, qui est un des seuls pays aussi beau, bon et généreux vis-à-vis de sa population. Il y a les repas d'un euro pour les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les cadres communautaires ? Certaines communautés ont agi, ont réagi. Nos étudiants juifs, ils rencontrent exactement les mêmes soucis, les mêmes problèmes Évidemment. Que les étudiants lambda.
Évidemment.
Mais encore plus, avec une difficulté supplémentaire, celle de manger cachère. Et donc, vous voyez, il faut agir et réagir de façon instantanée. Et un grand rabbin de France, c'est celui qui passe des coups de fil, des coups de téléphone, qui envoie des mails, qui se soucie d'un point aussi important et essentiel que celui-là, de faire en sorte de s'occuper de nos jeunes, de faire exactement ce qui se passe dans la société et de le reproduire pour aider nos frères et sœurs. J'attendais une action, une réaction, et donc j'espère que si les responsables communautaires m'offrent leur confiance, je répondrai bien évidemment avec mes amis et ceux qui ne le sont pas, eh bien, je répondrai présent, inéni, me voici pour servir ma belle communauté.
Je rappelle cette information que vous venez de nous délivrer, au-delà de votre premier livre et de l'ouverture de cette campagne officielle, de l'entrée dans cette campagne, que vous êtes candidat au poste de grand rabbin de France, Michael Journeau. Si vous êtes élu, quelle sera votre première action le jour où vous serez élu ?
La première action, je pense que la première chose que je ferai, c'est d'appeler mes parents. de les remercier du fond du cœur pour toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises. C'est-à-dire que mes parents sont toujours des éducateurs, des pédagogues. C'est-à-dire que je suis né dans une ambiance juive, traditionnelle, voire orthodoxe, mais d'une ouverture assez incroyable. Mes parents organisaient des centres aérés pour les enfants, et donc des enfants de tous bords. Et venaient dans les centres aérés, venaient dans notre maison, et ce qui nous a offert à la fois l'ouverture d'esprit, d'accepter l'autre, même s'il est différent, tout en gardant notre singularité, notre spécificité du respect de nos valeurs et de nos traditions. Puis après, bien évidemment, c'est aller sur le terrain. Aller sur le terrain constamment, pas seulement visiter, mais prendre des rendez-vous de façon ponctuelle, mais profonde, avec les différents acteurs sociaux de la communauté, les différents présidents de communauté, les différents rabbins de communauté, mais aussi les associations. Il faut connecter tout cela pour être efficace. Je l'ai expliqué il y a quelques instants. C'est lorsqu'on est beyachad, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est main dans la main, qu'on arrive à soulever des montagnes. Et l'histoire a montré que lorsque nous sommes unis et réunis avec un objectif qui consiste, qui est celui d'aider nos sœurs et frères, eh bien, on arrive à soulever des montagnes et à faire disparaître les différentes épreuves.
Sans en tout cas et l'émotion et l'énergie que vous déployez, Michael Journeau, rabbin, candidat au poste de grand rabbin de France. Nous sommes en tout cas très honorés à Radio Judaïka d'avoir cette annonce en primeur
qui ne
manquera pas de faire réagir l'ensemble de la communauté, nous n'en doutons pas, et bien au-delà de toute évidence. Patrick Cohen.
Vous ouvrez finalement la période des candidatures et puis cette campagne. Donc on sera très heureux, comme d'ailleurs pour l'ensemble des candidats qui souhaiteront vous recevoir à nouveau sur les antennes de Radio Judaïka. Donc si vous voulez qu'on prenne... Là, du coup, vous nous avez pris un peu de cours parce qu'on était venus pour votre livre. Et voilà. Mais en tous les cas, c'est vraiment... On apprécie beaucoup que vous l'ayez fait ici à Strasbourg, qui est une ville, je le répète, que vous aimez beaucoup. Vous n'avez pas attendu... de venir aujourd'hui pour montrer votre affection. Vous étiez là il y a quelques mois. Vous étiez ici d'ailleurs pour les raisons d'une de vos fonctions qui sont la rencontre avec les hôpitaux. Vous étiez ici avec l'ensemble des responsables communautaires. On vous recevra avec plaisir pour parler de votre candidature et de votre programme. Je pense que là, il y aura une émission pleine et entière qui pourra être consacrée
et préparée à ce sujet.
Et on vous souhaite bonne route.
Et je vous remercie. Puis,
et à très vite sur les antennes de Radio Judaïka pour évoquer cette candidature de manière plus poussée.
Je vous remercie. Et un judaïsme du cœur, de faire preuve d'empathie, d'aller à la rencontre de l'autre et de se soucier du bonheur comme du mal-être de tout à chacun. C'est mon objectif, c'est ma philosophie de vie et c'est mon carnet de route.
Bien, nous en tiendrons informés et surtout informés nos auditeurs et corrigionnaires et bien plus et bien au-delà encore. Michael Journeau, rabbin, merci beaucoup d'être venu à Strasbourg.
Merci
de cette primeur d'information et vous retrouverez bien sûr l'ensemble de le retour de cette émission sur le www.radiojudaïkastrasbourg.fr en replay et sur nos réseaux sociaux. Rabbin Michael Jeannot, ben écoutez, comme on souhaite à Tzlara, hein, pour je la réussite.
Juste pour rappeler, voici ces différentes matzot, et je voulais vous raconter simplement une anecdote, parce que mon passage à Strasbourg est
vous
aussi
vous n'êtes pas venu les mains vides.
Je ne suis pas venu les mains vides, et cette petite matzah, vous voyez, c'est une petite matzah qui est fabriquée à la main, qui a permis à des patientes et des patients eh bien, de garder espoir. Et je pense que c'est... vous savez, je me souviens, avec le grand rabbin Olivier Kaufmann, on a mené des opérations avec les jeunes dans les différents hôpitaux de France. On transmettait un message spirituel et religieux, et après, ils partaient dans tous les hôpitaux de France, dans plus de 53 hôpitaux de la PHP. Ils allaient, les jeunes de notre communauté, avant le Covid, avant les problèmes du terrorisme, ils distribuaient
dans,
ça aux
dans
enfants.
Dans l'ancienne vie.
Et donc, certains patients ne peuvent pas manger de la matzah. Mais certains m'ont dit... Et je vous parle, ça c'est de l'émotion, et ça c'est de la réalité. Posez-les-moi à la fenêtre, parce que lorsque je les regarde, je garde espoir. Et voilà, c'est ça le rôle d'un rabbin, c'est ça le rôle d'un juif, c'est de toujours se souvenir qu'il existe des êtres qui sont dans la souffrance, et nous devons leur tendre la main et les aider. Et je remercie, je sais que vos structures, en cette veille de Pessah, font un travail fabuleux. Je rends un hommage à votre grand rabbin Harold Weil, et à votre cher président, M. Dahan, et à toute la commission administrative, mais aussi toute votre belle communauté. Encore une fois, c'est... un endroit où on puise le bonheur d'être des bons citoyens français, parce que l'histoire des Juifs de Strasbourg est très, très, très ancienne, et aussi en tant qu'homme et en tant que Juif. Merci à vous.
Merci, monsieur
le
rabbin.
Merci beaucoup.
Michael Jeannot, cette veille, quelques jours de Pessah, en tout cas, on vous souhaite de très, très bonnes fêtes et un succès, et la voie que vous cherchez, que vous souhaitez.
Amen, que Dieu vous écoute.
À très bientôt.
À très bientôt.
Bonne journée à tous. Communiquer.